d'autres sujets. Entre autres, il y avait la fameuse question qui, moi, m'avait gêné un petit peu. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers ? C'est-à-dire, on a toujours un petit peu de mal avec la réduction des dépenses. On a toujours un peu de mal aussi avec l'augmentation des recettes pour l'État, évidemment. C'est pour ça que j'ai formulé ça sous la... Qu'est-ce qu'il faut supprimer ? Qu'est-ce qu'il faut modifier ? Qu'est-ce qu'il faut renforcer ? Et qu'est-ce qu'il faut créer ? De façon à affiner un petit peu. Et là-dessus, j'aimerais que vous puissiez vous exprimer... parce que vous avez pu déjà y réfléchir un peu avant que ce débat commence. Qui veut intervenir sur cette question ? Oui, alors, on y va.
D'abord, bonsoir tout le monde. Pareil. Christian Poicheval, retraité, gilet jaune, ça se voit.
mais pas à la radio.
Autrement artiste. Alors moi, je suis un peu inquiet de tous ces débats parce que ça me rappelle quand j'étais éduc. On faisait des débats sur la personne X qui était en grande difficulté. Et il en sortait qu'à la fin, cette personne, pas dans tous les cas, heureusement, mais souvent, terminait à l'hôpital psychiatrique. Ce débat me semble être, on dit de l'enfumage. C'est même pire. C'est de la manipulation.
Tu parles globalement du grand débat.
Grand débat. Ouais, manipulation des masses. Mais qui reviennent aussi chez nous, même ici ce soir. Je ne vais pas avoir la langue de bois. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire croire que les gens sont capables, ont la compétence. Certes, on a entendu des gens qui ont tenu des propos ô combien intéressants. Je ne le remets pas du tout en cause. Mais le fond, on est en République, on a voté, on a un président de la République, on a un gouvernement... 18 mois s'écoulent, la France est en feu. Les pauvres se lèvent, les miséreux se lèvent, ils n'ont plus à bouffer. Les taxes, ils ne savent même pas ce que c'est parce qu'ils ont si peu d'argent, qu'ils mendient leur bouffe de chaque jour. Je vais m'expliquer sur cette... Moi, je suis un 68ard, hein. Sur cette mendicité, c'est de la mendicité organisée. Bien sûr, bravo à ces gens qui ont pris en main Secours catholique, Secours populaire et tant de choses pour aider ces gens qui ont faim. Ils ont faim, ils sont à poil. Je ne sais pas si vous êtes allé dans ces lieux où les gens vont chercher des vêtements. Mais c'est grave de chez grave. Mais c'est puant. Pour nous, pour moi, d'aller dans ce lieu et de voir ces gens, c'est des guenilles qu'on leur donne. C'est l'horreur. Et lorsqu'ils sortent habillés avec ces vêtements, ils ont déjà des gilets jaunes. C'est clair. Ils sont habillés sur mesure. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 10, 12 millions de gens qui ont la dalle. Ils sont en train de crever dans leur trou. Ils ne savent plus où ils habitent, ils ne peuvent plus prendre leur bagnole, et leurs enfants sont en train de pleurer au coin de la cheminée parce qu'ils ne peuvent pas acheter de bois et ça caille. Et leurs enfants ne peuvent pas aller dans les centres culturels, dont j'ai été à une époque responsable. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Ils sont baisés. Et ils finiront au fond du trou. Alors bien sûr, le gouvernement dit « Ouais, mais c'est pas nous !»« Mais non, Léa, c'est les autres !» Oh là, les autres, que c'est facile à dire. Qu'est-ce que vous êtes petit ? Qu'est-ce que vous me donnez la haine ? J'ai la haine. Parce que je suis un gilet jaune, et moi, je suis allé à Bourges pour les gilets jaunes. Je suis allé à Mortagne. Je suis allé à Dreux. Je suis allé à Granville. Je suis allé à Argentan rencontrer ces gens. Ces gens qui ont retrouvé de l'humanité. Ils ont pu partager un bout de pain à la taxe. La taxe. Mais il n'y a pas de taxe quand on partage un bout de pain. Il y a la faim, la boule au ventre. Ces gens, donc, essaient de retrouver de l'énergie. Alors, j'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont et qui sont au gouvernement ont été élus par notre démocratie. Par le vote. Moi, ce que je leur demande, en tant que gilet jaune, c'est très simple. Donc, j'ai dit entre 10 et 12 millions de gens qui sont seuils de pauvreté. Cela représente, parce que je suis en train de travailler sur le sujet sérieusement, d'ailleurs je vais sortir un truc sur la toile, cela représente en gros, pour essayer d'équilibrer pour que ces gens aient au moins entre 1300 et 1500 euros par mois, ça représente 70 milliards seulement. C'est quand même pas grand-chose. La fraude fiscale, c'est combien? Et tant d'autres choses? Déjà que le gouvernement, que nos élus, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Mais prennent réellement le taureau par les cornes. Et amènent à ces gens déjà de quoi manger, de quoi vivre, de quoi s'habiller, de quoi prendre leur voiture pour le boulot, de quoi payer demain la nouvelle approche pour la bagnole, pour le contrôle, qui va être inabordable. Je vais vous dire des choses. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a du marché noir de gasoil? Pourquoi? Parce que le monde paysan peut avoir du gasoil. C'est bien, au contraire, parfait. Et ces gens, pour aider ces gens qui n'ont plus de fric pour payer le gasoil à la pompe, vont acheter ce gasoil chez le paysan. Et je tiens à vous dire en plus qu'il y a des garagistes qui jouent le jeu. Avant d'amener la bagnole au contrôle, ils changent tous les filtres pour pas que ça se voit. Parce que bien sûr, la loi, répression, première chose. Autre chose, donc, 70 milliards pour ces gens qui sont à l'heure actuelle dans la misère. Autre point étrange quand même, 68. Moi j'étais sur les barricades à Caen et j'étais à Paris. Nombre de morts. 7 morts. Aujourd'hui nous sommes à 11 morts. Mais c'est un scandale. Où on est? C'est flic. Mon père était flic et je l'ai traité de flic. Mon frère était flic et je l'ai traité de flic. Ces flics, ils sont venus des tueurs. C'est pas de leur faute. On les a amenés sur le chantier. Et bien sûr, les pauvres, ils ont des ordres. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore soulevés. Mais ils vont peut-être se soulever, et je l'espère. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc, je reprendrai la parole après. Mais la situation du débat, c'est pas le moment. Donnons avant à manger aux gens. Habillons les gens. Et ne laissons pas ces gens dans la misère.
Ce qu'on retient de ce que vient de dire Christian, c'est que l'une des priorités, visiblement, tu me diras Christian si je te trahis ce que tu dis, c'est la solidarité et le retour à les moyens de la dignité et du bien vivre pour tous. C'est un peu ça qu'on peut résumer en quelques mots. Quelqu'un veut intervenir? Oui, madame.
Josette Faramin, je suis responsable du Secours catholique de Ciel-Guillaume. Je respecte tout à fait ce qu'a dit monsieur. Il a le droit de parler. La seule chose, je réagis, c'est quand j'entends parler de friperie, de guenilles. Je l'invite à venir à notre local. Il y a 10 personnes qui, deux fois par semaine et plus, trient. On met des vêtements tout à fait dignes et très beaux, quasi propres et quasi neufs. Ce sont des vêtements qui sont apportés par tous. Je suis d'accord avec lui dans le sens quand il parle que ces gens ont le droit à la dignité. C'est ce que nous essayons de leur donner. Et c'est ce que nous essayons de vivre ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes en précarité nous apportent autant que nous leur apportons. Excusez-moi. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que, justement, on a peu de visites au local, des personnes qui pourraient apporter, discuter, partager, et puis donner aussi des conseils, accompagner, c'est ce que l'on appelle accompagner. Voilà. Bon, il y aurait bien des choses à dire, mais je voulais remettre...
On a encore du temps, vous pourrez revenir au micro, oui. Ce qu'on constate ici, alors que le micro va aller vers monsieur, c'est que quelque part, vous venez de signaler, vous deux, la place de l'économie sociale, la place du secteur associatif, qui sur des territoires est parfois actif et peut-être pas forcément suffisamment reconnu dans le rôle qu'il peut tenir. Mais on va y revenir. Monsieur.
Oui, je reviens à la question de départ, j'ai cru comprendre que c'était sur les services publics qu'il fallait
supprimer, conserver, où il y a des dépenses à faire et où il y a des besoins.
Alors, je pense que les services publics pour les territoires qui sont la poste, l'école, la gendarmerie pour la sécurité, tous ces services-là, il faut les maintenir. On crée des maisons médicales, on pourrait aussi créer des maisons des services publics, où il y aurait par exemple des lignes informatiques pour aider les gens à faire leurs déclarations en ligne, avec des gens qui pourraient les aider si besoin, faire des roulements, voir des spécialistes par exemple des impôts qui viendraient une ou deux fois par semaine pour répondre aux questions des gens. Donc un peu sur le principe des maisons médicales. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Je pense aussi qu'il faut que l'État investisse autant dans les territoires pour les liaisons informatiques qu'on le fait dans les villes. Pour 1 euro dépensé en ville, il faut dépenser 1 euro dans les territoires. Pour ce qui est de supprimer, oui, on peut supprimer, je pense, pas mal de choses en France. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des agences. Par exemple, il y a un organisme qui s'appelle le Conseil économique et social. Donc si vous avez été un grand délégué syndical, que vous avez été relativement sympa, en général, par exemple, moi j'ai été dans l'éducation nationale, beaucoup d'anciens secrétaires des syndicats d'éducation nationale finissent au Conseil économique et social. C'est une bonne place pour une retraite, c'est une bonne place. Ils fournissent des rapports, certainement, mais je ne sais pas si ces rapports servent vraiment à quelque chose. Il y a aussi, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, où Mme Joanneau...
La Commission nationale du débat public.
Oui, débat public. Alors là, elle avait l'occasion de montrer que c'était son boulot, puisque elle est chargée du débat public. Donc, elle dit, oui, mais je gagne trop, donc je ne le fais pas. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle démissionne.
C'était pas exactement ça, le motif.
Oui, non, mais elle disait, parce qu'on va me le reprocher.
Excusez-moi. Je veux juste corriger une chose. On a les textes. Chantal Joanneau s'est retirée du débat parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas suffisamment de garanties de la part du chef d'État, l'indépendance, la transparence du débat et sur sa limitation. C'est l'argument qu'elle a utilisé.
Enfin là, elle est payée pour un truc, pour un boulot qu'elle fait pas, quoi. Enfin bref. Mais je pense qu'on peut trouver beaucoup de niches comme ça qui sont assimilées à des services publics, mais qui n'ont rien de service et pas grand chose de public. Voilà.
Merci. Donc voilà, des services qui servent, des services qui ne servent pas. Oui. Alors oui, voilà. Allez, c'est parti, madame.
Alors moi, je suis Alexandra Faux. Je suis parent d'élèves des écoles de primaire de Sillé. Donc moi, je rebondis sur le cas des écoles. Donc on a des menaces de fermeture de classe ici, dans les communes autour aussi, pour un enfant manquant. On doit donner nos chiffres au mois de mars, qui est super tôt, sachant qu'il y a des départs, des arrivées, et que si on ferme une classe, ça veut dire que les autres classes vont être surchargées. Sauf que nos enfants, c'est notre avenir. Donc si on surcharge des classes, il va y avoir des décrochages. Et enfin, c'est un cercle vicieux, quoi, en fait. Donc faut maintenir nos classes et sans comptage et au moins avoir une classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà.
Le maintien des écoles en zone rurale. Madame.
Allô, oui.
Oui. Allez-y, oui.
Je ne sais pas si on m'entend. Alors parfait. Justement, pour rebondir sur votre histoire, donc moi je suis pas de Sillé, mais je suis pas loin. On dépasse la forêt et je suis juste à côté.
C'est Mont-Saint-Jean.
Non, je suis de la Mayenne.
Ah, sur la Mayenne. Alors, bienvenue au Mayennais.
Merci. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au cœur de ce débat, il y a quelque chose qui m'énerve énormément. C'est que certaines classes et certaines écoles soient fermées, alors que d'autres, parce que les élus ont la main très longue, restent ouvertes et à côté font fermer d'autres écoles qui mériteraient de rester ouvertes. Et ça, je trouve pas ça normal. Donc voilà. Je sais pas combien d'enfants il y a dans votre école ou dans votre classe qui est menacée. Nous, actuellement, dans notre commune, on maintient une école avec 8 enfants parce que le maire est aussi président des maires de la Mayenne. Et ça, c'est pas normal qu'on laisse fermer d'autres écoles de ce côté-là. C'est pas normal. Donc voilà.
Alors, sur ce point des différents services, Qui est-ce qui veut intervenir? Oui, excusez-moi, oui, je... Allez-y, monsieur, oui.
Vous m'entendez, là, oui?
Oui, parfaitement.
Je voulais répondre à monsieur Pichereau, quand même, sur déjà...
On évite de revenir sur les taxes ou des choses comme ça.
Oui, mais c'est, hein. Je pense qu'il ne doit pas avoir le dernier mot sur tout, parce qu'il nous embrouille la tête. Il vote avec ses collègues comme un seul homme toutes les lois. Par rapport à l'ISF, vous nous avez dit, on va regarder ce que ça donne, et si ça marche, si les fortunés investissent dans l'économie, on laisse, et sinon, on supprime. C'est bien ce que vous avez dit. Moi, je me rappelle du CICE. On avait dit, ça a été négocié sous Hollande avec Monsieur Pierre Gattaz, il avait promis contre le CICE 1 million d'emplois. Vous vous rappelez tous de ça? Combien d'emplois on a vu? Zéro. Et CICE, il est doublé maintenant. Donc non seulement on entérine, mais on double. Voilà. Après, les pauvres, s'ils sont payés 100 balles de plus sur leur salaire et qu'ils payent des impôts, s'ils arrivent à mettre quelque chose dans leur frigo, ils seront fort contents de payer des impôts. Les gens, ils sont pas contre l'impôt, ils sont contre le fait de pas boucler les fins de mois, c'est tout.
Alors,
c'est tout. Si 100 balles, c'est pas assez, faut en mettre 200, c'est tout.
Alors, on entend bien ce que vous dites, monsieur. J'aimerais qu'on revienne sur les services publics et que des maires, parce que c'est vrai, les maires des communes rurales sont mis en avant parce que leur travail est pas toujours très simple, s'expriment sur ces questions qu'on vient d'entendre, là, de disparition. On a quelqu'un au téléphone?
Oui.
Sur ce même sujet?
Oui, sur l'école.
C'est bon, on y va techniquement? Oui, allô, bonjour. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Non, pas non. Là, il y a une petite coupure quelque part. Là, donc on va y revenir. On va y revenir. Oui, que les maires s'expriment parce que c'est pas toujours simple de maintenir des services. Est-ce que Gérard, par exemple, va intervenir ou Dominique Amiard, par exemple, ou d'autres présents dans cette salle. Donc voilà, c'est Gérard Galpin, maire de Ciel-Guillaume, qui
s'exprime. Oui, bonjour à tous. Oui, Gérard Galpin. Tu as fait le message. Moi, je voudrais réagir sur, bien entendu, sur les services publics. À Sillé, on est en train de se battre pour faire une maison d'accueil service public. On est en train de mettre tout en place pour ça. J'espère qu'on sera suivi par l'État, parce que c'est pas évident. Il faut faire acte de candidature, et c'est l'État qui décide si oui ou non on doit implanter une maison de service public que sur le territoire. Donc, on attend la réponse pour le mois de mars. Vous avez parlé d'Internet, le haut débit. Ben je suis désolé, je suis aussi conseiller départemental. Il y a un engagement du département de la Sarthe pour que tous les Sartois, j'ai bien tous les Sartois, aient Internet au plus tard, j'ai bien au plus tard, en fin 2022. Donc c'est demain. Et comparé aux autres départements en France, je peux vous dire qu'on est largement en avance. Les fermetures des écoles, oui, c'est un problème qu'on a sur la tête tous les ans. Hein. L'année dernière, on s'est battu pour une classe. Maintenant, cette année, il faut qu'on se rebatte pour une classe, pour un élève, pour l'instant. Donc voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est que les services de l'éducation nationale, dès janvier, nous disent, ben voilà, votre classe va fermer. On sait même pas s'il va y avoir des nouveaux enfants qui vont arriver. Donc c'est une politique qui est un peu draconienne. J'ai eu la directrice académique au téléphone et je lui ai dit ce que je pensais, mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qu'il faut admettre, qu'il faut se bagarrer. Moi, je voudrais saluer l'engagement du Secours catholique, de la Banque alimentaire. On laisse pas les gens crever de faim, je suis désolé de le dire, on est présent, je le vois bien à la mairie quotidiennement, et moi, je salue le travail des bénévoles. C'est la Banque alimentaire Joseph qui a décidé d'une dizaine de personnes, Secours catholique, pardon, une dizaine de personnes. La Banque alimentaire, c'est aussi une dizaine de personnes. Ce sont des bénévoles qui font ce travail. Et je peux vous dire que là-dessus, ils font un travail extraordinaire. Et je crois qu'on peut les applaudir. Voilà ce que je voulais dire sur le service
public. Est-ce que Dominique Amiard, qui est sur une plus petite commune, le micro va venir à Dominique Amiard. Voilà, Arthur, voilà, ici, voilà. Donc Dominique Amiard, donc qui est aussi conseiller régional.
Oui, par hasard, hein, mais...
conseiller régional tout de même.
Tout à fait, mais en fait...
Alors justement, ça nous...
Si je dis par hasard, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de représentants des petites collectivités, très très peu du monde rural, hein, finalement, parce que plus on s'élève dans la hiérarchie des collectivités et des assemblées, et finalement, ce que je dis à mes étudiants tous les jours, presque, et ce que je dis y compris à la région...
Vous enseignez à l'université, il faut le dire.
Moins voilà, c'est ça. Le peuple est représenté, c'est-à-dire moins... Aujourd'hui, il y a peut-être, les classes populaires, c'est peut-être plus de 60% à peu près, hein, des Français. Et en réalité, il y a des instances dans lesquelles ils sont quasiment aujourd'hui plus représentés. Et ça, c'est un vrai, vrai problème.
Vous croyez que ça pèse sur la vie publique sur la décision?
La fracture, elle est là. Parce qu'en fait, quand les gens n'ont plus des représentants d'ouvriers, d'employés, des gens qui nous entourent, qui vivent comme nous, ben finalement, on n'a plus confiance. Parce que les autres, quelque part, on se demande s'ils nous représentent véritablement, quel message ils font passer, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les conseillers municipaux, les maires, les adjoints, tout ça, les conseillers municipaux, ça, ils ont encore une estime. Il y a un respect parce que c'est le voisin, c'est la personne qu'on connaît, c'est quelqu'un qui vit comme nous ou pas comme nous, mais à la limite chacun représente, bon, un coup les profs, un coup les agriculteurs, un coup les coiffeurs, enfin je veux dire, vous voyez, et ça c'est extrêmement important pour retisser du lien. Il va falloir à un moment donné qu'on soit capable d'envoyer des représentants de toutes les catégories socio-professionnelles et surtout aussi, hein, parce que c'est compliqué. Après, c'est comment la parité homme-femme, on sait faire, mais là, c'est beaucoup plus difficile.
La parité sociale, c'est plus difficile à mettre en
place. C'est plus difficile, mais c'est un élément essentiel parce que par le passé, ça existait. On peut dire, bon, il y avait des syndicats qui formaient, il y avait des partis politiques aussi qui avaient qui permettaient à des gens d'avoir une trajectoire. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu tout ça et il faut aussi que les élus soient accompagnés parce que tout le monde n'a pas la capacité à bien s'exprimer, à bien rédiger, etc. Par contre, il y a ces gens-là, ils ont peut-être d'autres compétences hein, dans leur qui sont utiles à la France au quotidien. Et il faut qu'au moment où les gens soient en situation de décider, ils puissent être bien formés, bien informés, etc. C'est pour ça que prendre des décisions le dimanche matin en cochant des cases, c'est sans doute à certains moments... ça peut être vraiment des moments très forts parce que là, le peuple va à la rencontre de ses gouvernants. C'est sans doute important, mais il y a dans une société aussi complexe comme la nôtre, il faut que les gens soient bien formés, qu'on ait des citoyens bien éduqués, etc., et qu'ils puissent à tous les niveaux, tout au long de leur vie, participer à cela. Mais c'était pas votre question.
Voilà, on va revenir tout à l'heure sur les questions institutionnelles, c'est-à-dire à quel moment les citoyens peuvent s'exprimer, faire des choix, s'engager. Sur une commune comme Cure, par exemple, ça se traduit comment la disparition de services ou l'implantation de nouveaux services?
Ben, si vous voulez, il y a une grande inégalité aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde rural est pauvre. Parce que les services publics, ce sont les services de l'État, mais c'est les services de proximité qu'on trouve aussi dans nos communes, quoi. Et quand vous avez un monde rural qui est aussi pauvrement doté avec des dotations aussi faibles que celles qu'il y a aujourd'hui, c'est très 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 compliqué de maintenir des services de proximité, de simplement maintenir la mairie ouverte, de permettre aux gens de venir chercher un conseil, un accompagnement pour, on le disait tout à l'heure, aider à remplir une déclaration d'impôt, faire une demande de carte grise de voiture, etc. Et moi, j'ai pratiquement plus les moyens de financer. Ma commune a encore perdu 10 000 euros cette année de dotation. Et ça, c'est du service public, hein, tous les jours. C'est de la qualité de service public.
Le président de la République a eu l'occasion d'entendre les maires s'exprimer lors de grandes réunions à Grand-Bourterould et également c'était à Souillac, hein, si je me souviens bien. Donc je pense que ça, c'est un message qui est passé déjà fortement. Sera-t-il entendu, c'est autre chose, mais c'est un message important. Damien Pichereau, est-ce que vous souhaitez faire un petit commentaire sur différents propos qui ont été tenus? Arthur va vous apporter le micro. Merci Arthur.
Merci Arthur. Oui, je sais pas par quoi commencer. Sur les écoles, effectivement, vous soulevez un problème qui est réel. Et quand je vois moi aussi ce matin dans le journal qu'on risque de fermer 38 classes l'an prochain en Sarthe, j'ai peur. Ouais. L'an dernier, on s'est battu avec les maires que je tiens à saluer pour justement sauver des écoles. Sauver des classes.
Damien Pichereau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux aujourd'hui dans la situation où on dédouble des classes dans certains quartiers et en même temps on purge les communes rurales? Est-ce qu'il n'y a pas le danger de dresser le monde rural contre le monde urbain, ce qui serait une catastrophe?
Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Moi, il y a quelques semaines, j'ai pu poser une question orale justement sur ça.
Donc qu'est-ce qu'il
sur
faut
le
faire
fait de, moi, que dans, au minimum, dans les zones rurales de revitalisation, qui sont les zones rurales les plus pauvres au final, on ait des seuils de fermeture qui soient plus faibles. Je ne demande pas à ce qu'on double le nombre de CP, CE1, mais déjà qu'on ne ferme plus les classes et qu'on les conserve, parce que ces problématiques qu'on retrouve dans le milieu urbain, dans certains quartiers de politique de la ville notamment, on les retrouve aussi dans le rural, au final. Mais il faudra aussi accepter que des classes de 8 élèves, malheureusement, c'est plus possible. Une école de 8 élèves, c'est plus possible, mais attendez, j'entends micro, ce que vous dites, vous ne l'avez pas défendu. Oui. Allez-y.
Là où je suis d'accord, c'est effectivement, il faut garder des écoles en ruralité. Par contre, il faudrait quand même pas oublier qu'une école avec 8 enfants, je ne vois pas ce qui est moteur pour les enfants. Parce que 1 CE2, 2 CE1, 2 CP, qu'est-ce qui est moteur pour les enfants? C'est juste parce que monsieur le maire veut coûte que coûte garder son école parce qu'il ne veut pas perdre la face. Et d'un autre côté, on n'est pas idiot. Enfin, moi, je ne suis pas idiote. Je sais qu'il y a des effectifs de fermeture obligatoire parce qu'il y a des postes qui sont supprimés. Donc, on va maintenir une école parce qu'un maire a du pouvoir au niveau de certaines catégories politiques. Et d'un autre côté, on va fermer des classes ou voir des écoles de 20 ou 25 élèves. Où est l'égalité là-dedans?
Vous savez, c'est pas un problème même qui est typiquement rural. J'étais en début de semaine dernière au Mans avec des professeurs. 43 élèves par classe. Vous croyez qu'on peut étudier avec 43 élèves par classe?
Non.
C'est juste pas possible. Donc s'il y a des réformes à mener, c'est clair que c'est là. C'est une des priorités.
On est d'accord. Mais c'est après, vous parliez là tout de suite maintenir les écoles avec un minimum. Comment on peut justifier aujourd'hui de maintenir une école avec 8 enfants?
Non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. Quand je parle minimum, c'est quand on est à un élève près, deux élèves près, en zone rurale, est-ce qu'il faut fermer? C'est plus ça dans l'esprit. Effectivement, je vous l'ai dit, quand on est à 8 élèves pour une école, c'est pas moteur pour les élèves. C'est pas leur donner une chance.
Alors nous, on est habitants de la commune, mon conjoint est agriculteur, on peut pas déménager. On est mal vu parce qu'on a décidé, parce que moi j'ai un enfant en situation de handicap, et qu'à l'école il n'était pas encadré. La maîtresse l'année dernière a refusé de prendre la VS, donc j'ai pas eu de choix que de changer mon fils d'école. L'éducation nationale ne veut pas reconnaître les faits. Elle me dit que je n'étais pas dans l'école, que je ne peux pas détenir la vérité, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon fils, il a dû être mis sous médicaments pour dormir, parce que l'année dernière ça se passait très très mal. Aujourd'hui, on nous interdit d'avoir accès au transport scolaire, on nous interdit la légalité d'avoir été à une école rurale. Je suis restée dans une école rurale publique, je n'ai pas été dans une école privée qui est à 6 km de chez moi parce que je voulais maintenir mon enfant dans une structure à taille humaine. Et à aujourd'hui, on a le conseil régional, on a toutes les instances des transports scolaires qui me disent « Madame, vous ne respectez pas la carte scolaire, donc vous n'aurez pas accès comme tout le monde au transport scolaire. » Alors moi, mon fils en situation de handicap, qui s'en occupe? Qui s'occupe à aujourd'hui, je voudrais savoir, qui s'occupe des enfants en situation de handicap? Personne.
Damien Pichereau, un mot là-dessus, parce que c'est un sujet sensible. Et on a quelqu'un au téléphone juste après.
D'accord. C'est effectivement un sujet sensible, plus que sensible, qui s'en occupe. Écoutez, moi, ce que je veux bien, c'est vous recevoir. Je sais que vous n'êtes pas de notre département, mais vous recevoir pour déjà en parler avec vous, analyser votre situation, voir s'il y a des solutions.
Ah, moi, j'ai deux cartons pleins de mails que j'ai échangés avec différents députés, sénateurs, qui me répondent « Je suis désolée, on ne peut rien faire, on ne peut pas obliger une personne à signer un document, on est vraiment désolé de la situation, etc. » Et personne ne prend position.
Ce que vous exprimez ici, c'est quelque chose qui transpire à travers les questions, c'est-à-dire la difficulté administrative, qu'on ne sait jamais qui est l'interlocuteur, qui renvoie à un interlocuteur, puis à un autre. C'est valable pour ce qui vous concerne, mais c'est valable dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est le problème de la simplification administrative qui, parfois, est aussi une vraie complexification de l'administration.
Moi, mon combat, je veux le faire pour moi, pour mon fils, pour ma famille, mais pour toutes les familles
bien
avec
sûr.
Des enfants en situation de handicap qui ont exactement le même problème que nous.
Absolument.
Juste un dernier mot, c'est possible, juste pour répondre à la longue tirade de monsieur tout à l'heure qui était fort jolie, mais je trouve quelque peu insultante. Envers moi, mais ça, c'est pas le problème. Je suis prêt à l'accepter. Par contre, envers certaines associations, Secours Populaire, Secours Catholique, ça, c'est une honte. Je trouve, sincèrement. Envers nos policiers, qui nous protègent.
Alors,
ils nous protègent, monsieur. On n'a pas le droit de les attaquer comme ça. Je peux aussi vous répondre. Je réponds à votre attaque, monsieur. Je réponds simplement à votre attaque. Après que j'ai terminé, peut-être.
Oui.
Allez-y.
Micro. Mais rapidement, par contre.
Alors.
Mais rapidement, si possible, parce qu'il faut qu'on avance dans nos thèmes.
C'est bon. Je pense que la personne m'a pas bien compris rapport à tous ces gens
qui aident les pauvres. Je vous suis très très bien. D'ailleurs, moi aussi, j'y participe. Ouais. Donc, là, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir d'une certaine personne qui est debout là en ce moment. Donc, je m'excuse si je me suis mal exprimé rapport à ça, car vous faites quelque chose d'important. Vous faites quelque chose qui demande énormément d'énergie, parce que vous y travaillez beaucoup, je sais. Vous avez parlé de trier les vêtements, la nourriture, d'essayer à ce que tout soit équitable, que tout soit fait avec cœur. Donc, bravo à vous. Donc, je n'ai insulté personne. Vous voulez m'excuser, alors, monsieur. Et je vous demande de tenir des propos autres que ceux que vous tenez là. Autre point important.
On a quelqu'un qu'on doit prendre au téléphone tout de suite. Il y aura la possibilité d'intervenir derrière. Et Damien Pichereau, pareil, interviendra. On prend le téléphone tout de suite. Et après, voilà. C'est bon, au téléphone? Allô, oui?
Oui, bonsoir. Merci de m'accorder ce petit moment. Je suis
Vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Conly. Je suis un jeune étudiant en l'université de Rennes, après avoir fait mes études au Mans. Et je souhaitais revenir en fait sur le fait que les jeunes sont plus ou moins absents des propositions et du débat, du grand débat national, en particulier sur en rapport avec la fermeture des services publics ou la mise en danger de certains, notamment les dangers qui plaignent sur les universités, avec l'augmentation des frais et la dégradation des conditions d'études, en particulier pour les étudiants issus de milieux ruraux. Moi, je prends l'exemple des trois capitaux de Pierre Bourdieu, capital social, capital économique, capital culturel, et bien pour ces jeunes qui sont en milieu rural, il y a aussi le capital du territoire, le capital de la ruralité du moins, et où il est plus difficile de faire des études supérieures parce que ça engendre des coûts supplémentaires, notamment par rapport au logement, par rapport à des étudiants dont les parents habitent dans des métropoles. Et pour cela, en fait, pour terminer, j'invite à la réflexion autour de l'ouvrage « Les invisibles de la République », écrit par Erki Maillard et Salomé Berliou, qui évoque toutes les difficultés pour les jeunes de faire des études supérieures et des fois qui ont un peu un rêve, un destin brisé malgré leur forte capacité. Et j'insiste du coup sur les services publics, la mise en danger, ou les universités de proximité comme l'université du Maine, mais aussi des universités, des antennes comme à Laval ou à Alençon, peuvent être fragilisés par le manque de dotation au profit d'autres grandes écoles. Voilà des disparités qui sont à la fois sociales et territoriales et qui concernent les jeunes.
Voilà, très bien. Très bien. On vous remercie pour votre intervention. Donc sur ce point, est-ce que quelqu'un veut réagir avant de revenir dans le show du débat que j'aimerais qu'il s'apaise aussi en même temps.